19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ramadan & Co sur Beurre FM, une heure pour parler des sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Et ce soir, célibat, l'impossible rencontre jusqu'à 20h avec Vanessa. Bienvenue Vanessa.
Merci, bienvenue Philippe.
Voilà, c'est vous qui nous endormez tous les soirs sur Beurre FM. Avant on comptait les mythos, maintenant on vous compte. Enfin on compte sur vous surtout, ouais, ça. La petite nouvelle s'appelle Erika, bienvenue Erika.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes auteur de Mokabala ou Les confessions des musulmanes du siècle, bienvenue. À côté de vous, c'est Sabrina. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice de l'agence Abelny, agence de rencontres éthiques.
Musulmane, oui.
Musulmane. Nadia Elbouga est en face de vous. Bonsoir Nadia.
Bonsoir Philippe.
Sage-femme, sexologue, auteur de La sexualité dévoilée chez Grasset qui a bien fonctionné cette année. Vous êtes à côté de Ali Habibi. Bonsoir Ali.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Philippe. Thérapeute du couple et de la famille, doctorant en psychologie clinique. Et celui qui a l'honneur de démarrer l'émission... Non, j'ai pas présenté Tarek, mais c'est parce que vous êtes derrière moi, Tarek.
Alors, bravo, Philippe. Merci beaucoup. Ça me touche pour ma dernière émission, en plus.
Il est bien discret, c'est pour ça.
C'est vrai, vous êtes trop discret, Tarek, entrepreneur. Bien. Est-ce qu'on peut écouter Tarek? Alors, je vous laisse lancer Maître Serran, tiens, pour la peine.
Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Maître Senna. Maître.
C'est n'importe quoi.
Maître Serran, my ténor du barreau. Il vous laissera son numéro de téléphone pour toutes vos petites histoires de vol,
divorce.
De divorce et de tapage nocturne.
Il s'est bien rattrapé. Bien, salam alaikum, mes amis. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous salue, mes camarades. Ravi de vous retrouver quotidiennement et de partager avec vous ce moment de communion. C'est vrai, ça fait du bien de se dire que tous les soirs on est écoutés par nos frères et sœurs et j'espère que par cette émission nous vous apportons un réconfort et en particulier à toi, auditeur, auditrice, qui n'a peut-être pas la chance de passer ce Ramadan en famille. D'ailleurs, j'ai reçu un mail d'une auditrice qui m'écrit « Maître Serran, merci à vous et surtout à Philippe Robichon pour cette émission qui nous fait du bien ». Alors en lisant ce message, je me suis dit « Tiens, spontanément, sympa ce message de Nadia, car l'auditrice s'appelle Nadia ». Et puis j'ai relu le message, Maître Serran, merci à vous et surtout à Philippe Robichon. Alors c'est le terme surtout qui est bizarre. Pourquoi surtout? Pourquoi ne pas juste écrire merci Maître Serran? Ça aurait été suffisant, ma chère Nadia. Alors il y a quelques jours, je recevais un message que je devais transmettre à notre ami Abdelali Mamoun. Aujourd'hui, je reçois un message que je dois vous transmettre, mon cher Philippe. Alors si un jour, un auditeur ou plutôt une auditrice pouvait m'envoyer un message, mais uniquement destiné à ma personne, j'en serais ravi. Et si l'auditrice pouvait faire moins de 120 kilos, ce serait parfait. Oui, je sais, je demande l'impossible. Alors, l'impossible, c'est pas de recevoir un message élogieux d'une auditrice. Non, ce qui est impossible, c'est que nos auditrices fassent moins de 120 kilos. Après, faut pas s'étonner que ces boudins ne trouvent pas de sabots à leurs pieds et restent célibataires. Mais comme à mon habitude, je suis dans l'excès de mauvaise foi. Car ce nouveau phénomène du célibat, mon cher Philippe, ne concerne pas que les moches. Hein. Bah oui, il existe depuis quelque temps un curieux phénomène, mon cher Philippe. Alors qu'il était de coutume au sein de la communauté qu'une demoiselle devait coûte que coûte être mariée à partir d'un certain âge, quitte à la brader au premier venu, eh bien désormais, nos filles, nos femmes se sont émancipées. Il était inimaginable il y a quelques années qu'une demoiselle dise à ses parents, à ses frères, voire même à ses oncles, hein, car chez nous, la jeune fille doit avoir l'aval de toute la famille au sens large. Donc qu'une demoiselle dise, bon, c'est bon les gars, je vais aller m'installer seul hors mariage. Une al-shaitan, mais tu veux que la famille soit frappée par la honte, que les voisins nous montrent du doigt. Non ma fille, si tu quittes la maison sans que tu sois mariée, tu seras bannie à jamais. Et soudain, le changement. Nos filles peuvent vivre désormais hors foyer familial, hors mariage, sans pour autant être bannies et marquées au fer rouge par la famille. En fait, nos enfants, et en particulier nos filles, ne veulent plus de la vie de leur mère. Une vie où la mère s'est mariée très jeune, n'a pas toujours été à l'école. Mais pourquoi faire, puisqu'elle doit s'occuper que du mari et des enfants? Tout ça, c'est fini. Les filles veulent faire des études, travailler, être autonomes, et peut-être seulement envisager de se casé. Il n'est par conséquent pas rare qu'à 40 ans passés, on ne soit pas encore marié. Conclusion. Avant, nos femmes, elles étaient juste grosses. Désormais, elles sont grosses et vieilles. Va trouver un homme avec tout ça. Mon cher Philippe, je vous repasse le micro.
Ah non, 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 mais gardez-le dans ces cas-là, Maître Serran. Bien, Sabrina, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Maître Serran, que finalement, les femmes aujourd'hui, elles ne veulent pas de la vie de leur mère?
Alors, vous dites, elles arrivent à 40 ans, toujours pas mariées, etc. Je pense qu'aujourd'hui, celles qui arrivent à 40 ans et qui ne sont pas casées sont loin d'avoir choisi, en fait, réellement cette situation. Donc, il y a quand même, je pense, beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes qui souhaitent vraiment se marier. Alors, pas forcément la vie de leur mère. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que chaque époque a ses c'est-à-dire ça a changé beaucoup, mais l'histoire du mariage reste pour moi d'après ce que je vois tous les jours un grand besoin, une grande envie, homme comme femme, et même très jeune. J'ai des gens très très jeunes qui viennent me voir. Alors c'est vrai qu'en général ils sont plutôt pratiquants, donc c'est très lié au fait religieux, mais quoi qu'il en soit, même pour les femmes moins pratiquantes et les hommes moins pratiquants qui viennent me voir, le mariage reste une utopie, quelque chose qu'on a envie d'atteindre et un rêve qu'on a envie de réaliser.
J'arrive pas à comprendre, avec tous ces gens qui ont envie de se marier, pourquoi il y a tellement de gens qui ne sont pas. Alors Elia Bibi, comment dans une communauté où la première question qu'on vous pose c'est bonjour, comment tu t'appelles, et la deuxième est-ce que t'es marié, aujourd'hui il y a tellement de célibataires?
La question du célibat, je pense qu'on peut en parler pendant des heures, c'est assez complexe. C'est les changements qui se produisent au niveau générationnel sont multiples. Donc il y a plusieurs facteurs qui pourraient venir un peu expliquer, mais même si on les cite tous, je pense pas qu'ils soient suffisants. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent à des gens, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, etc.
Toujours pas marié ?
Oui, c'est des questions qui reviennent souvent, mais pour revenir sur la difficulté du célibat, il y a plusieurs cas de célibat, c'est-à-dire que tous les célibats ne sont pas identiques. Vous avez plusieurs cas de célibat, vous avez des personnes qui choisissent de vivre leur célibat, qui l'assument, qui le choisissent, et il y a aucun souci pour ces personnes-là.
Dans la communauté, il y en a tant que ça qui vivent le célibat, un célibat assumé.
Tant que ça, je sais pas, il y a pas de statistiques et je vais en pas compter les gens, et les gens que je rencontre, c'est juste les gens que je rencontre, il y en a encore d'autres que je ne vois pas, mais vous avez des personnes qui vont choisir de vivre leur célibat, vous avez des personnes qui vont subir leur célibat, vous allez après y avoir d'autres catégories qui sont un peu plus difficiles, on va dire, à saisir, qui pensent choisir leur célibat, mais qui ne le choisissent pas. Et vous avez d'autres personnes qui pensent subir et qui ne le subissent pas réellement du fait de l'extérieur, et qui en réalité vont avoir dans leur comportement des agissements qui vont les pousser à être célibataires, même si leur bouche ou leur langue va dire le contraire.
Ouais, ça les arrange bien en tout cas.
Alors, mais c'est plus complexe. Erika, elle, a levé la main.
Oui, oui. On a tendance à croire que les jeunes filles d'aujourd'hui, donc de musulmanes, en tout cas d'origine maghrébine, etc., sont en dehors des célibataires classiques de français, la française. Je peux parler des femmes en tout cas, mais je pense que les hommes aussi c'est la même chose, alors qu'en fait ils subissent le même tapage médiatique, la même mode, et c'est la grande mode du célibat en ce moment. Et j'ai lu un article très intéressant sur Marie-Claire qui disait...
Oh là là, vous lisez Marie-Claire ?
Ah mon Dieu, oui je sais, je suis une semaine. Non, le titre était le célibatu et l'amour rend moche. Je reviens à ce que disait Maître Serran, dire qu'en fait on a l'impression que quand on se marie c'est vendu à la momone avec Madame Sarfati un petit peu, avec
exactement.
Les seins, le tablier, etc. Et que le célibat...
Oula, le CSA là il vient d'envoyer un message, Madame Sarfati.
Non, mais voilà, pour dire que voilà, alors qu'en fait le célibat, on a l'impression d'être super à la mode parce qu'on reste jeune, on reste tendance, on reste à la mode, et même si on croit qu'on veut se caser, finalement, comme il y a cette mode-là d'être célibataire, on n'est pas si pressé, autant pressé qu'avant, de vouloir trouver absolument la bonne personne, etc.
Donc, ouais, ce que je retiens de votre intervention, Erika, c'est que vous dites que finalement, les filles de la communauté, elles subissent quasiment les mêmes choses que tout le monde. Donc oui. c'est pas une catégorie à part.
Non.
C'est des êtres humains comme les autres.
Être humaine, comme dit Vanessa.
Être humaine, hein. Terrienne. Oui, alors, moi, parlant du célibat... Moi,
vous êtes contre, j'espère.
Contre quoi ?
Bah, tout. Par principe, le célibat, je suis contre.
Je suis contre le mariage, contre le célibat, contre tout ce que vous voulez.
Ah, je suis rassuré, vous êtes là.
Voilà, alors les femmes parlent d'hommes immatures aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles restent longtemps. Je voulais commencer par les hommes, mais je vais parler des femmes. Donc, les femmes parlent d'hommes immatures. Elle les trouve de moins en moins mûres en comparaison de leur père, etc. C'est la référence qu'elles ont. Et donc, elles disent que ces hommes ne cherchent que du sexe. Moi, je leur pose des questions tous les soirs. Mais pourquoi ? Comment ? Alors, les hommes aujourd'hui ne cherchent que du sexe. Comment ? Alors, les femmes et les hommes de la même génération, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui cloche.
Je
remarque.
Pas.
Alors on dit souvent, oui, les femmes, alors on a inventé un nouveau concept, les femmes cougars, etc. Ben, je suis désolée, mais c'est ce qui marche le mieux. Les femmes plus âgées, avec un homme plus jeune, eh bien...
C'est sûr qu'ils sont matures s'ils sont plus jeunes.
Non, c'est pas ça. Il arrive un petit peu, cet homme, à atteindre une certaine forme de maturité, sa vitesse de croisière. Parce qu'il a envie, il a envie de De se prouver à lui et puis de prouver à la personne qui peut assumer, etc. Donc il y a un travail, enfin c'est très psychologique tout ça. Et d'un autre côté, les hommes, quand on leur
entretenir aussi, hein.
Non, pas du tout, parce que non ils s'assument, les hommes travaillent, etc. Tu as des femmes d'un certain âge qui n'ont pas forcément les moyens. Non, c'est pas il faut vraiment pas.
Vous pensez qu'une femme d'un certain âge qui n'a pas les moyens,
président d'ailleurs qui le prouve encore une fois aujourd'hui, alors les femmes qui n'ont pas,
je parle de moyens, là, vous...
Alors, on va parler de moyens. Alors, oui, alors, donc, les femmes, les hommes, alors, en parlant de moyens, alors, les hommes trouvent que les femmes sont très compliquées. Elles sont trop exigeantes. Et que les femmes en demandent trop matériellement. Elles demandent qu'un homme soit parfait. La perfection n'existe pas, elle n'est pas de ce monde. Mais qu'un homme puisse, assumer matériellement cette femme, voilà, l'argent, tout ça, oui, on est d'accord. Ils me le disent, moi, chaque soir, les hommes, quand je leur pose la question, mais comment se fait-il avec... Il y a autant d'hommes que de femmes et de plus en plus de célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais Vanessa, les femmes en demandent trop. Moi, je travaille, je suis travailleur, je paye mes impôts, la vie est difficile.
En fait...
Elles sont trop exigeantes. Voilà.
Sabrina. En fait, chacun est dans son... Enfin, moi, je pense, c'est vrai, comme a dit Ali, il y a énormément de causes aujourd'hui et on peut analyser sociologiquement... plein de phénomènes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de façon pragmatique, il y a juste des idéaux différents, en fait. Les hommes et les femmes ne recherchent pas la même chose, donc ne se rencontrent plus, tout simplement.
C'est quoi la différence, c'est-à-dire
Alors, c'est ce qu'on a souvent dit dans les émissions du jeudi, mais c'est vrai que nous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, on a été biberonnées à Disney, à tout un tas de choses. On est toujours
Beverly
en train
d'être
voilà, Beverly, c'est le club Dorothée, étant parlé le toit, Hélène et les garçons, et donc on est aujourd'hui en train d'attendre
c'est
un
si
prince charmant.
C'est des vieilles références.
Non, bah oui, je suis si vieille que ça, mais je suis plus jeune, donc c'est bien.
La radio, elle fait beaucoup plus jeune. Hein.
Et donc, c'est vrai qu'elles ont des idéaux qui sont d'un autre ordre. Et les hommes, aujourd'hui, ils sont pas prêts à traiter une fille comme une princesse sans concession. Le syndrome de la princesse, ils apprécient pas trop. Et ce qu'ils appellent les femmes compliquées, c'est juste des femmes qui veulent être traitées comme des princesses, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'on est.
Non, mais l'histoire de matérialiste, elle revient souvent dans la bouche des hommes. Ils disent les femmes sont trop matérialistes. Alors, Erika.
Les femmes sont matérialistes parce que les hommes, ils sont trop sur le physique. Aujourd'hui, ils sont hyper exigeants, je suis désolée. Tous, ils demandent une femme parfaite physiquement, gaulée comme ça, etc. Enfin, mais même, et même les musulmans, enfin, ils sont sans complexe. J'ai entendu des hommes demander que. Je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais voilà.
Non,
allez-y.
La taille du jean Levi's, savoir comment. Quelle est sa taille de poitrine, etc. Mais sans complexe. Parce qu'en gros, c'est un deal. C'est un deal, le mariage maintenant.
Nadia.
Oui, moi je voudrais revenir quand même au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quand même à la base le célibat.
Et le célibat, l'impossible rencontre
entre oui. Mais revenons quand même sur le statut du célibat, parce qu'on a vite fait de mettre ça de côté. Faut quand même pas oublier qu'il y a une tranche de personnes qui choisissent le célibat. Et à mon sens, c'est pas incompatible avec le religieux. Dans notre histoire religieuse, on a des personnes qui étaient célibataires. Si on prend Rabi' al-Adawiya, si on prend Abu Huraira, ils étaient célibataires. Donc, parler systématiquement de situations subies, c'est quand même très réducteur. Le célibat, pourquoi il nous questionne? Il nous questionne parce qu'en fait, on est dans une certaine ambiguïté entre comment se fait-ce qu'une personne, notamment quand c'est une femme, veuille rester dans une espèce de liberté totale, ou alors être dans une solitude atroce. On a l'image là, en fait, du célibat. Il n'y a pas un entre-deux où la personne pourrait tout simplement aussi, à un moment de sa vie, ne pas vouloir forcément se mettre en couple parce qu'elle a besoin de se connaître, elle a besoin de se rechercher, elle a besoin aussi de stater un petit peu, de savoir qui elle est, elle. Et je pense pas que ce soit forcément quelque chose de négatif. Il faut pas oublier que on vit dans une société où on a des normes, et la norme, c'est le couple. Donc à partir du moment où on n'entre pas dans cette norme sociale, eh bien on met sur le banc tous les autres. Et j'insiste, notamment quand c'est une femme. En fait, quand une personne est célibataire en dessous de 30-35 ans, elle n'est pas suspecte. On dit que c'est une personne qui est éprise de liberté. À partir du moment où une personne est célibataire au-delà de 35 ans, elle est tout de suite suspecte, et notamment quand c'est une femme. Soit on la suspecte de problèmes psychiques,
ou de frivolité,
d'égoïsme. Comment?
Ou de frivolité, certains vont l'attaquer.
Exactement, soit de frivolité. Je trouve que c'est très très vite en fait remballé l'histoire du célibat, qui est, à mon sens, comme l'a dit très justement Ali, beaucoup plus complexe que ça.
Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord, Nadia, parce que longtemps j'ai pensé que le célibat était choisi aussi, parce que autour de moi j'ai des célibataires,
un certain type
comme
de
tout le monde.
Célibat,
oui,
pas tous les célibats.
Non, mais il existe, mais il est minoritaire celui-là, parce que moi je pense que le célibat est surtout subi et surtout et plus par les femmes, parce que toute femme en majorité, eh bien les femmes aspirent à quoi? À partir de 30 ans, 35 ans, puis quand la quarantaine arrive, l'horloge biologique, et on sait ce que c'est, eh bien, les femmes paniquent. Moi, je les ai en panique. Elles ne le montrent pas forcément à l'extérieur, parce qu'il y a une forme, de pudeur, et puis en même temps de fierté, un égo. Mais sinon, elles sont en panique, elles me le disent. Moi je rencontre des femmes ultra-modes. Non, mais c'est pas ça, j'en rencontre ultra-modes.
Tu m'as dit non alors que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit.
Oui, pardon. Oui, mais je te dis
non. Ça, c'est la contradiction de Vanessa, ça.
C'est non d'emblée.
Non. Ali, c'est non par principe. Donc c'est normal.
D'accord, donc tout va bien. Ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs cas de célibat. Et quand tu reçois les personnes qui sont en crise parce qu'elles sont en panique, c'est parce qu'elles sont arrivées à cette étape de panique. Mais avant d'arriver à cette étape de panique, il est possible qu'elles aient fait des choix pendant toute leur vie qui a fait qu'elles étaient célibataires et qu'elles se plaisaient même de cette situation. Mais quand tu arrives à un stade, comme tu dis, où l'horloge biologique a tourné et que tu arrives à un moment où tu dis purée, bon là, les années elles sont quand même passées plus vite que prévu. Et là, je commence à paniquer parce que les années sont passées plus vite que prévu. Mais avant que je me rende compte que ces années ne sont passées plus vite que prévu, je refuse les prétendants, j'ai pas envie, je suis totalement autonome, j'ai pas besoin d'un homme, etc. etc. Alors, c'est pas toutes les femmes.
C'est un cercle vicieux.
Il y a une catégorie de personnes qui va choisir son célibat librement. Mais il y a la catégorie qui est intéressante, parce que c'est celle que moi je retrouve le plus en thérapie, qui va penser subir le célibat alors qu'au fond elle le choisit d'une certaine manière.
On parlera d'elle tout à l'heure. Tarek, vous lisez quelque chose?
Ouais, en fait c'est un espèce de cercle vicieux, parce que les personnes qui d'un seul coup se réveillent et veulent se marier, moi j'en ai dans mon entourage, j'ai mon frère, j'ai plein d'amis, j'ai des cousines, etc., qui veulent se marier, et ils arrivent à un moment, ça y est, on veut se marier, et en fait c'est panique à bord. Il y a l'horloge qui tourne, il y a l'âge qui, ça avance, etc. Donc, il y a une espèce, on se conditionne, on se met des freins, on se met des barrières, de la pression.
Mais avant la panique, ces personnes, elles étaient comment avec toi?
Et puis, elles étaient proches aussi.
Avant la panique, elles étaient épanouies dans leur célibat. Par contre, à un moment, est-ce que c'est la pression sociale qui fait qu'à un moment, faut se marier ou autre?
Oui, mais les hommes.
Mais en tout cas, il y a cette panique qui intervient. Après, moi, ce que j'aimerais vous poser, Ali, comme question, c'est, est-ce que aussi les règles de rencontre, de muqabala, etc. Sont, je vais pas dire rigides, mais est-ce qu'il y a pas un problème aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a pas un problème de rencontre entre la gente féminine et la gente masculine aujourd'hui? Et ils arrivent pas à se rencontrer dans un cadre. On n'arrive pas à déterminer
éthique.
Ce cadre éthique.
Bien, on posera la question d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'on parle du célibat, l'impossible rencontre jusqu'à 20h. C'est Ramadan & Co.
Ramadan & Co. Reviens dans un instant. Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une émission qu'on appelle Célibat, l'impossible rencontre ce soir avec Nadia Elbouga qui est avec nous, Sabrina Berina, je donne votre nom, tiens, du coup, Erika est avec nous, Vanessa Ali Habibi est avec nous, Maître Serran et Tarek qui est avec nous également. Alors on parlait tout à l'heure des lieux de rencontre aujourd'hui, on se rencontre où quand on veut se marier?
Un peu
qui veut commencer?
Sur Internet.
Alors
internet,
on
peut, voilà, on peut... Mais ça, vous dites, on quand on ose parier, on va sur internet.
Les sites, les sites de rencontre, oui.
Alors, absolument.
C'est vrai, vous avez donc les sites de rencontre d'un côté où les personnes peuvent échanger, se rencontrer. Dans les sites, on va dire, un peu plus éthiques, il n'y a pas l'échange qui est faisable, mais la rencontre est possible. Vous avez les réseaux sociaux, les gens utilisent tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y en a même que j'apprends chaque jour des nouveaux noms, où les gens, c'est des moyens de...
C'est quoi les derniers, par exemple, que vous avez appris?
Mukabala sur Messenger.
Il y a Mukabala sur Messenger.
Ou sur Snapchat. Mukabala sur
Snapchat. Facebook va lancer... Facebook va lancer une option de rencontre justement via leur application. Ils ont prévu le truc et ils vont essayer de faire rencontrer les gens. Donc vous avez donc au niveau du virtuel tous les réseaux sociaux et les sites de rencontre. Puis après vous avez les agences matrimoniales et les associations, les mosquées pour les musulmans qui essayent de faire rencontrer les gens. Vous avez les proches, les amis, les proches, les connaissances. Vous avez parfois des entremetteuses ou entremetteurs qui essayent, qui font ça très régulièrement.
Ça existe encore, ça.
Ça existe, oui.
Qui ont pignon sur rue.
Qui ont un carnet de profils et qui essaye de faire rencontrer, de profiler les gens. Donc il y a plein. Après vous avez des
au travail, il y a le mec qui prend,
vous avez au travail, pendant les voyages, ouais, pendant les loisirs. À partir du moment où il y a une interaction entre deux humains, c'est une possibilité de rencontre, qu'elle soit virtuelle ou
réelle. Parce que la question, excuse-moi Ali, la question de Philippe, comment se rencontre-t-on aujourd'hui?
Quand on veut se marier.
Alors, aujourd'hui, quand on veut se marier, c'est ça
aujourd'hui,
qui...
Aujourd'hui, eh bien...
On ne parle pas de draguer, hein, je dis marié.
Mais marié, absolument.
On ne pourrait pas se draguer.
Eh bien, c'est Internet. Moi, je... Voilà.
Mais justement, oui. Tariq soulève un point hyper important, hyper intéressant. C'est que le mode de rencontre, effectivement, dès lors qu'il s'agit de se marier, il se transforme, il change. Moi, j'ai plein d'hommes qui viennent à l'agence. Et des fois, ils sont par exemple patrons de restaurants ou ils ont des jobs où on se dit, mais ils rencontrent beaucoup de femmes.
Ouais,
et puis, quand on est patron d'un restaurant, les jeunes filles quels sont les loisirs des jeunes filles célibataires? Elles viennent entre copines pour dîner et tout ça. Et je lui dis, j'imagine que tu dois rencontrer des femmes. Et il me dit, oui. Je lui dis, mais ça te coûte quoi si une te plaît de lui demander, de poursuivre? Et il me dit, je ne veux pas m'afficher la honte. J'ai plus 15 ans, moi, pour devant toutes ces copines me faire afficher. Donc, effectivement, dès que ça devient un peu sérieux, on peut ne pas avoir peur de se ficher un peu la honte quand c'est pour draguer ou pour des choses moins engageantes, parce que c'est un jeu, que c'est
pas les mêmes enjeux.
Oui. Tout à fait. Qu'il s'agit d'envisager la future femme de sa vie on devient sérieux, mais du coup peut-être trop, au point que les rencontres ne se font plus en fait.
Je connais une personne qui est étudiant, etc., beau gosse et tout, et il avait ce problème là il connaissait quelqu'un et il n'osait pas aller la voir, et on l'a secoué dans tous les sens. On lui a dit, mais bon sang de bonsoir, va la voir, un jour ou l'autre elle va te passer sous le nez et t'auras tes yeux pour pleurer, quoi. Et il l'a fait. Il est passé à l'action. Il a été la voir. Et puis
ils se sont mariés ou pas du coup?
Et alhamdoulilah, ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils vont avoir beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, tout se passe bien.
Ouais, mais les gens n'osent plus aller s'aborder les uns les autres.
Surtout, c'est peut-être ça le problème aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe.
Oui, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance.
Vous êtes sérieuse ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, Vanessa?
Je sais pas.
C'est dans le showbiz, c'est dans le cinéma. C'est pas dans la vraie vie.
Ça, c'est l'image de la vraie vie. Ah, je suis désolée. Ah oui, ça en fait partie. Les gens ont peur. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent, ah ben j'ose plus maintenant aborder une femme. Harcèlement, machin, etc. J'ai pas envie de me prendre une place.
Ça, c'est vrai.
Alors, après, tu sais, Vanessa.
Je t'assure, me dis, moi, l'antenne.
Après, tu sais, c'est vrai que j'aimerais dire aussi, il y en a qui ont trop joué, tu vois. Ils ont trop joué, ils sont trop amusés, ils ont rencontré pas mal de filles à droite, à gauche. Et le jour où ils veulent se marier, en fait, il y a une espèce de crise. Je sais pas si c'est une crise d'identité ou autre, mais ils se disent, finalement, qu'est-ce qui reste, en fait? Et est-ce que je vais trouver la bonne? Est-ce qu'elle a fait la même chose avant qu'à moi?
Et puis la virginité,
et cela.
Alors moi, j'ai une réponse.
Alors là, vous parlez que des hommes.
Après,
là,
Je t'assure que quand je parle, je dis homme, je parle aussi de femme. Pour moi, c'est exactement le même.
C'est pas la même chose. Non, c'est pas question de féministe. C'est pas la même chose. Parce que, comme disait Ali, les enjeux sont pas les mêmes. Et effectivement, la démarche n'est pas la même.
Le risque n'est pas le même.
Tout à fait.
Pourquoi les enjeux sont pas les mêmes, Nadia?
Parce que on a toujours ces fameuses normes sociales. Une femme qui serait patronne de restaurant, justement, et on renverse l'histoire.
On ne demanderait même pas.
Voilà. Et ça nous traverserait même pas l'esprit de dire,
pourquoi tu n'as pas
dit
justement? Alors,
il y a des hommes qui viennent se restaurer parce que eux aussi vont entre copains au restaurant. Pourquoi tu vas pas en aborder un? Vous voyez, ça a déjà pas la même. Là, en écoutant, ça a déjà pas la même tonalité parce qu'on se dit, attends.
Elle est frivole.
Une femme qui aurait justement, qui prendrait
l'initiative
et irait avec une intention sérieuse de vouloir
en savoir plus, etc.
Sérieuse, et bien du coup, bizarrement, on la prendrait comme une fille facile.
Il est possible qu'elle-même se prenne aussi comme une fille facile. C'est-à-dire que même si elle sait qu'elle est sérieuse, qu'elle soit gênée,
elle ne le ferait pas par rapport à cette image.
Par rapport au conditionnement
social. On
n'est
pas préparé à ça encore.
Mais est-ce qu'il faut paramètre les règles par rapport à ça?
Vous allez aborder un homme.
Attendez, elle est disciplinée.
Je vais faire un aveu.
Vanessa, regardez, Erika est disciplinée.
Je suis une fille frivole, je suis une fille facile, puisque c'est moi qui suis partie chercher mon mari. Il m'a appelé, c'est moi qui... Je vais juste compléter. Voilà, le truc, c'est que moi, je n'ai pas ce poids culturel. Et ça a été extrêmement naturel. Ah oui, donc je vais dire quand même me présenter. Je vais rappeler que oui, mon prénom le suggère. Ça fait 17 ans que je suis musulmane, donc je ne suis pas née dans une culture, même si, voilà, qui était très fermée. Enfin, pour moi, on m'a jamais mis de complexe sur le fait qu'une femme pouvait faire ce qu'elle voulait. Et je dois avouer même que, anté-islamiquement, j'allais vers les hommes, comme n'importe quelle jeune fille d'aujourd'hui. Donc, je ne me suis pas dit, en devenant musulmane, en mettant un foulard sur ma tête, excusez-moi, que tout d'un coup, bah non, j'ai plus le droit, machin. Par contre,
le comportement de la
façon regard des gens,
à notre histoire,
exactement. Moi, ça m'a conforté parce que moi, je lisais des choses qui n'étaient pas du tout pas contrario, en tout cas, de mon comportement. Par contre, l'effet des gens autour de moi me revenait en pleine face. C'est-à-dire, mais comment tu peux faire ça? Tu n'as pas le droit. Ça se fait pas. Tu
c'est
vas pas
dans les
pour
conventions
une femme,
sociales.
C'est pas dans les conventions. Mais comme je m'en fous un petit peu, je vais aller. Mais je suis mal.
Alors, Alia Bibi.
Mais justement, parce que Tarek avait posé une question juste avant qu'Eric commence à parler sur est-ce qu'il faudrait pas changer les règles ou reformer des choses. Les règles, elles sont déjà placées et elles sont claires. Le problème, elles ne sont pas au niveau des règles, parce que tu as cité l'exemple de Khadija, qui demande le prophète en mariage, alors qu'en plus, elle a 15 ans de plus que lui, elle a déjà été mariée.
Elle les cumule, cougar et en plus, entrepreneuse, entreprenante.
Elle a déjà été mariée, le prophète n'a jamais été marié.
Elle a 15 ans de plus. Ils n'étaient pas encore.
Elle a 15 ans de plus que lui.
Il n'y avait pas d'islam, il n'y avait rien.
Bah si, c'était
pas de religion.
C'était le prophète.
Avant qu'il soit prophète, il est devenu prophète après le mariage.
Mais il y avait quand même des traces.
Il y a eu la révélation, je sais pas quoi, enfin, juste après.
On
parle du culturel, on parle pas là du de c'est
justement.
Pas une question d'islamité ou pas.
Exactement.
Ramener à l'islam.
Bien sûr.
Les gens ramènent ça à l'islam, Vanessa.
C'est justement que le
Nadia,
pas tous ensemble. Pas tous ensemble, Nadia.
À la base, culturellement, c'est quand même la péninsule arabique, on met ça sur le dos de la culture pré-musulmane. Mais en réalité, même culturellement, les femmes avaient cette prise d'initiative.
Et ça allait même plus loin.
Draguer les hommes.
Ça allait même plus loin. On a des sources sur les traditions des Arabes de l'époque avant l'islam, d'accord, où les femmes testaient des hommes avant de se marier.
Ouais,
c'est-à-dire qu'elles pouvaient tester sexuellement des hommes.
Sexuellement.
Oui. C'est-à-dire
qu'elles pouvaient. C'est anti-islamique.
Non, mais là c'est du sérieux. C'est-à-dire que avant l'islam, vous aviez dans la culture des Arabes.
Avant l'islam.
Oui.
Bon, d'accord.
Donc des traditions chez les Arabes qui étaient très plus couvertes et qui étaient même plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui, où une femme qui voulait se marier, elle pouvait échanger intimement avec 10 et plus, voire plus, et choisir celui qui lui convient le mieux. Ça, c'était avant l'islam. Donc après, au niveau de la religion par rapport aux règles, Tarek, les règles, elles sont claires et nettes. Après, au niveau des règles, il y a aussi une ouverture par rapport aux mœurs et aux traditions et à la culture.
C'est juste là-dessus que je voulais.
Et selon le culturel, tu vois qu'il y a des différences. Et c'est là où le culturel, il est pas forcément mauvais, parce que on le pointe du doigt en disant ça c'est mal. Il y a des fois des choses qui sont mauvaises, il y a des fois des conséquences qui sont dramatiques, mais il y a des choses au niveau du culturel qui sont pas mauvaises et qu'il faut respecter et prendre en compte à partir du moment où on a affaire à des gens qui font partie de cette culture, ne serait-ce que par respect pour ces gens-là. Il y a des choses qui se font dans ma culture qui ne se font pas peut-être dans la tienne, etc., et ainsi de suite. Et donc, ce côté culturel, il est pris en compte par le religieux, parce qu'il y a une ouverture par rapport aux mœurs et donc, il y a une certaine pudeur à avoir, certes. Il y a des règles, il y a des choses qu'il faut pas faire, il y a des choses qui sont interdites, certes, mais elles sont simples à respecter. Et derrière, ce qui va poser problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en France, où on a un peu un mix de énormément de cultures, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus vraiment vers quoi on veut aller et d'où on vient, et on a l'impression que quoi qu'on fasse, et c'est là où les mokabala peuvent poser problème dans certains cas, on a l'impression que faut que ça soit rigide, faut que ça soit fermé, faut que ça soit structuré de telle et telle manière, alors que pas du tout.
Ça devient un interrogatoire, là,
alors que pas du tout.
Et puis, faut arriver aussi à cette mokabala. C'est-à-dire, effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est pas les règles, en fait. Moi ceux qui viennent me voir, j'ai pas du mal avec.
Vous avez une agence matrimoniale.
Une agence matrimoniale musulmane, effectivement, mais en fait, les gens ont du mal à se rencontrer clairement, et dans les idées, et physiquement. physiquement quand ils veulent avancer vers le mariage et quand ils veulent effectivement fonder un foyer. Donc avant même d'imposer des règles ou mettre le cadre, c'est pas ce qui me paraît le plus difficile, c'est de les faire se rencontrer en fait.
Mais quand vous dites qu'ils ont du mal à se rencontrer, c'est-à-dire qu'est-ce qui c'est...
déjà dans les idées,
le but du livre, pourquoi je l'ai écrit au début, c'est justement j'ai commencé il y a 17 ans, parce que quand je me suis convertie, enfin il y a 15 ans, je me suis retrouvée dans une communauté où j'avais aucun, comment dire ça, d'attachement. J'avais personne pour me guider.
Et pas de réseau.
Aucun réseau. Voilà, on va dire ça comme ça. J'avais aucun réseau. Donc, en gros, pour se caser, je fais comment? Voilà. J'ai pensé que c'était une situation qui concernait que les gens comme, les filles comme moi converties ou les hommes convertis. Mais en fait, non. Je me suis très vite rendu compte qu'en fait, ça concernait toutes les musulmanes d'aujourd'hui. Et encore pire maintenant, comme je vous ai dit la dernière fois, Philippe,
c'est les musulmans.
Toutes les célibataires d'aujourd'hui.
Et les célibataires.
Et qui ont acheté mon livre, qui sont non musulmanes, elles m'ont dit, je me suis retrouvée dans ce cas de célibataire et qui ne sait pas où rencontrer quelqu'un de sérieux, où le trouver.
Elle le vend bien, son livre, hein, non, le Kabbalah ou Confession des musulmans.
Elle
ne
le vend même plus.
Confessions.
Ali Habibi.
Après, il y a d'autres choses qui peuvent aussi entraver, la réussite d'une recherche de mariage. C'est que vous avez des personnes qui recherchent aussi une forme de perfection, c'est-à-dire qu'il faut que l'autre soit exactement comme je veux.
Tout à fait. C'est exactement ça pour moi.
La barre est très haute.
Exactement.
Hein,
et des fois, il manque un truc.
Les hommes cherchent leur mère aussi.
Alors, mais il n'y a pas que le problème, c'est pas que les hommes. C'est-à-dire
qu'elles soient parfaites physiquement.
C'est que des deux côtés, il y a une recherche de perfection par rapport aux besoins qu'on estime et qu'on va décrire. Et s'il manque des éléments, on refuse, on se dit, je vais essayer ou voir quelqu'un d'autre éventuellement, peut-être qu'il pourra avoir cet élément qui manque. Et là, à force de justement chercher une forme de perfection, donc c'est un élément, c'est pas que ça qui peut poser problème. Parce que tout à l'heure, j'avais cité aussi les peurs. Les peurs de l'engagement, ou les peurs de se louper, ou les peurs de se tromper, ou les peurs que ça se passe mal, parce qu'on entend des histoires autour de nous, parce qu'on voit des mariages qui se passent pas forcément très très bien. On voit quelqu'un qui, forcément, a priori, quand on le regarde, et dans les premières rencontres, c'est plutôt pas mal, ça se passe plutôt bien, les personnes sont avenantes, elles sont gentilles, etc. Et on se dit, oui, mais ça pourrait très bien changer par la suite, et la vraie personne qu'il est, je vais la découvrir après, et donc j'ai pas trop envie de prendre le risque. Et c'est là où les femmes, où les femmes prennent un risque bien plus grand que les hommes, et c'est pour qui c'est bien plus difficile.
La question de la virginité.
Mais il y a aussi un autre phénomène.
Je parle pas de virginité.
Non.
Je parle des conséquences de la vie après. C'est-à-dire que le problème de la virginité, c'est même pas un problème. C'est un problème, mais c'est pas le seul problème. Vous avez des problèmes de violence verbale et physique, vous avez des problèmes de statut, vous avez des problèmes de conséquences après divorce, parce que le statut qu'un homme divorcé, c'est pas pareil qu'une femme qui est divorcée. S'ils ont des enfants, c'est plus compliqué. Le regard de la famille, le travail, tout. Il y a une question logistique qui est bien plus compliquée que pour les femmes que pour les hommes, malheureusement.
Sabrina,
et il y a aussi, je rejoins Ali effectivement, et j'ajouterais à cela que aujourd'hui, vous disiez que certains ajoutent des critères, les critères ils sont jamais tous remplis, et donc on a du mal à avancer. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une tendance zapping. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a énormément de choix. On a parlé tout à l'heure des sites de rencontres, de Facebook et compagnie. En fait, les gens ont l'impression qu'il y a tellement de gens avec qui ils peuvent parler en même temps qu'ils ne se rappellent même plus à qui ils ont dit quoi, en fait. J'ai le choix. Donc,
Il y a des checks. Je parle pour les sœurs et pour les frères. Ils ont des listes, genre j'ai 2-3 noms, je suis en train de choisir. Voilà. J'ai fait plusieurs mots à Bala et on essaie de peser le pour, le contre, etc.
Mais du coup, on se concentre.
C'est vrai qu'il y a un problème de cohérence en réalité quand tu regardes cette démarche, comment les gens abordent le mariage à travers ça. Parce que tu fais une checklist, t'as des exigences, t'as tout ça, mais en réalité, est-ce que toi t'es exigeant vis-à-vis de toi-même? Et si t'essaies d'obtenir quelque chose de carré, de la perfection, est-ce que toi t'es parfait?
Ah, il y a Maître Serran qui est parfait.
Et Maître Serran qui allait rajouter. Bon, moi ça fait 20 ans que je suis avocat, donc ça fait un bout de temps.
Mais marié depuis combien de temps, Maître Serran?
Depuis 20 ans. C'est 20 ans, ma femme a senti le filon. Il a son diplôme.
Mashallah.
Voilà, ça va.
Elle a investi.
C'est peut-être la réussite scolaire et professionnelle est sûrement due à l'union que vous avez pu avoir avec votre épouse.
Ah, il y a de ça aussi.
Non,
mais c'est vrai,
Mais comme triste.
Complètement. Non, mais c'est vrai, moi j'ai remarqué quelque chose d'assez particulier. J'ai depuis 3-4 ans maintenant, j'ai des couples de chez nous, entre guillemets, qui viennent nous voir, qui ont un projet de mariage et qui posent des questions pour savoir comment s'organiser. C'est-à-dire qu'on nous parle de contrat de mariage, ce qui était inimaginable il y a quelques années. C'est-à-dire, moi, sincèrement, les seuls dossiers de contrat de mariage que j'avais, c'était des franco-français. Donc maintenant, des gens de chez nous, avant d'emboîter le pas, on discute qui apporte quoi et qu'est-ce qu'on fait si demain on se sépare. Ça n'existait pas.
Ah bah quand tu vois les fortunes qui se sont défaites, tu me diras
c'est
normal.
Est-ce que c'est si grave? Non mais moi par principe, je suis le premier à conseiller quand j'ai un pote ou un membre de la famille qui me dit voilà, j'ai tel ou tel projet, mon premier réflexe est de dire t'as pensé à un contrat de mariage, sincèrement, il faut le faire.
Alors Vanessa veut dire une phrase.
Oui, alors les gens ont peur de se marier parce qu'ils ont peur de divorcer, c'est tout.
Voilà, ah, elle était bien votre phrase.
Ouais, on peut faire une émission. Merci Vanessa. À bientôt.
Célibat, l'impossible rencontre jusqu'à 20h ce soir.
Ramadan Co revient dans un instant. Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Célibat, l'impossible rencontre avec Sabrina, Erika, Vanessa et Nadia. Tout est en A ce soir.
Hein, ouais, c'est ça.
Ben voilà, et puis Ali Habibi, alors donc voilà, on est dans les I, Maître Serrani et Tariq, voilà.
Tariki, vas-y, tu peux y aller.
Tariki, voilà. Bon.
Et Philippi.
J'anime, moi, Nadia, hein, donc laissez-moi tranquille. Est-ce que le regard sur les célibataires a changé dans la communauté ou pas?
Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit.
Merci de répondre à ma question, Nadia.
Parce que Vanessa a fini quand même sur un point qui
est. Elle l'a fait exprès, vous connaissez son métier.
Je voulais revenir sur deux choses. La première chose, la multitude de choix dont tu as parlé. Tarek, c'est-à-dire le fait qu'on ait maintenant plusieurs moyens de rencontre, mine de rien, au final, réseaux sociaux, Internet, les rencontres physiques. Du coup, on se retrouve avec une multitude de choix et des personnes qui se disent, comme disait Ali, et si finalement l'autre a une plus-value par rapport au précédent, et donc et si je me passe à côté finalement du prince charmant qui a ça de plus, provoque justement des choix cornéliens et les gens passent parfois à côté d'une partie de leur vie. Mmh. Ça, effectivement,
je te rejoins là.
Mais ce que vient de dire Vanessa, c'est faux.
Virginie,
oui. Victoria, j'allais vous appeler.
Oh, c'est pas mal.
Vanessa, en fait, ce que vous dites est totalement faux. Je vais vous le démontrer rapidement. C'est
attention, Nadia.
Je vais vous dire pourquoi.
Gunbox, les amis, Gunbox.
Non. Nous sommes que des pacifistes autour de cette table, n'est-ce pas, Vanessa?
Alors, quoi que c'est faux.
Dis-moi. Terrienne. Oui. Non, en fait, la peur de divorcer. Elle n'entre pas en compte puisque très souvent, là je sors donc hors communauté musulmane,
non, je parle pas d'aucune communauté.
Attendez, ouais. Les gens n'ont pas vocation à se marier tous. Donc ce qui fait que si vous n'avez pas vocation à vous marier, vous n'avez pas par définition peur de divorcer. C'est la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est dans le fait que, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et vous l'avez dit vous-même, il y a une idéalisation. C'est-à-dire que les femmes sont en posture de rechercher le prince charmant, tout en étant la féministe engagée.
Brandon en cabriolet.
Elle reste quand même avec cette image du prince charmant qui va la couver, la protéger, la sécuriser.
Mais non, c'est fini, ça, Nadia.
Non, excusez-moi, ce n'est pas fini.
Mais les femmes aujourd'hui,
c'est
femmes
de terre. Vanessa,
je peux juste terminer. Je ne veux pas faire de la psy de comptoir, mais c'est très souvent le cas. Et les hommes, vous l'avez dit vous-même avec une autre terminologie, recherchent la reine-mère. C'est-à-dire que eux sont...
Ils recherchent maman.
Ils cherchent pas la princesse. Ils cherchent maman
à la maison.
Améliorée.
Avec la version améliorée.
C'est-à-dire que 3.0. C'est-à-dire que c'est maman
à l'intérieur de la princesse.
Qui peut cuisiner, qui peut m'entretenir, qui peut me sécuriser, mais en même temps, avec qui je vais pouvoir atteindre l'extase sexuelle. C'est tout à fait ça. Donc, on se retrouve dans une problématique et d'un côté et de l'autre de personnes qui finalement peuvent chercher toute une vie et passer à côté de la personne qui aurait peut-être comblé leur solitude
Tarek
de célibataire.
Tarek.
Alors, moi j'aimerais, en tout cas si les auditeurs nous écoutent, moi je pense qu'il y a aussi un autre souci, c'est l'amour. On n'a pas parlé d'amour là ce soir.
Bon, bah non, et c'est un autre sujet.
Je pense, que le mariage, c'est avant tout. Je dis pas faut tomber amoureux, etc. Moi, je suis beaucoup dans les énergies avec autrui, etc. Et les gens, en fait, je pense qu'ils ont. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est plus sur des critères physiques, des critères matériels, critères d'âge, de géographie, etc. Que de, sur des critères d'énergie, on se sent bien avec la personne, on se sent épanoui, on l'aime, on va l'apprendre à l'aimer, il va se passer quelque chose de fou en fait. Et j'ai l'impression, est-ce que c'est passé de mode? Est-ce que c'est ringard de voir ça, de voir le mariage comme ça aujourd'hui? Je sais pas. Je vous pose la question en tout cas. Question.
Alors je suis personnellement heureuse de l'entendre dire de la bouche d'un homme.
Ah oui.
Parce que ça fait des années que je dis que justement les hommes que l'on taxe, comme vous l'avez dit Vanessa tout à l'heure, certains auditeurs qui disent oui mais les hommes ils ne pensent qu'au sexe, c'est faux, sur le terrain c'est faux, c'est-à-dire que lorsque on parle avec des patients ou des connaissances ou des personnes voilà du sexe masculin, eh bien très souvent c'est la question justement de l'amour qui revient et pas du tout celle du sexe au sens génitalité. Ça, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Si ça peut se passer sexuellement dans le meilleur des cas, ok. Mais principalement, les hommes recherchent une relation amoureuse.
Ah, alors, Ali Habibi.
Je vous le confirme.
Alors, je vais rebondir sur l'amour et après, je parlerai de ceux qui pensent...
De ceux qui pensent subir, mais qui choisissent.
D'une certaine manière. Au niveau de l'amour, juste une chose, Tarek, c'est vrai que c'est un des éléments qui est des plus importants. La seule chose que les gens doivent entendre, c'est qu'il y a plein de formes d'amour. Mmh. Il n'y a pas qu'un seul amour.
Bien sûr.
Et c'est surtout pas que l'amour hollywoodien ou Disney. Il y a plein de formes d'amour. Vous avez parfois des couples qui ont l'impression de souffrir, quoi, qui souffrent, et vous avez par exemple un des deux protagonistes qui va vous dire, mais j'ai un problème, c'est que j'aime pas mon épouse ou j'aime pas mon époux. Alors qu'en fait, il l'aime, mais différemment. Vous avez des gens qui se respectent énormément et que leur amour.
Il l'aime en l'envoyant chier, tout
par le respect ou par une forme de douceur, etc. Donc il y a plein de formes d'amour, notamment justement dans la langue arabe, vous avez 70-80 synonymes du mot amour, et chaque mot, chaque synonyme a une définition qui lui est propre. Maintenant, pour les personnes qui c'est parce que c'est une catégorie, c'est pas toutes les personnes, mais vous avez, et certains vont peut-être se retrouver en grattant un peu, vous avez une catégorie de personnes qui vont penser subir le célibat alors qu'elles le choisissent réellement d'une certaine manière. Et ça, vous avez un très bel exemple, c'est l'exemple de Majnun Leïla, le fou de Leïla. Le fou de Leïla, ce poète qui aimait éperdument sa cousine, il était fou amoureux d'elle. Et d'ailleurs, sa cousine, elle n'était pas exceptionnelle physiquement. Donc là, on revient parce que certains, quand ils ont vu, quand ils lisent ses poèmes, ils ont dit, mais ça doit être la plus belle femme du monde. Et quand ils l'ont vu, ils ont été déçus et ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu lui trouves au fond? Parce que on la trouve lambda. Et il répond, il faut avoir les yeux de Qais pour pouvoir voir la beauté de Leïla. Mmh. Il était fou amoureux d'elle. Mais il a fait une chose qui ne se faisait pas à son époque, qui était complètement interdite. Il a déclaré son amour pour elle avant d'être marié avec elle. Mmh. Par un poème. Mmh. Et ça a mis à mal la famille parce que ça les a un peu déshonorés, etc. Et quand ils sont partis faire la demande, parce qu'ils ont demandé sa main, le père de Leïla a refusé pour cette raison. Parce qu'il a fait une chose qui ne se faisait pas à son époque. Mais Qais, il savait très bien, parce que c'est le nom du fou de Leïla, il savait très bien que ça ne se faisait pas. Il connaissait les mœurs de là où il vivait. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous lisez les poèmes qui sont arrivés derrière, notamment un où il dit « Heureusement que je ne me suis pas marié avec elle, parce que peut-être que si je m'étais marié avec elle, je l'aurais moins aimé. » Et dans une autre histoire, Leïla est venue chez lui, venue toquer à sa porte. Et il ne lui a pas ouvert. Et un de ses amis lui dit, il y a Leïla qui est devant toi, ouvre-lui. Il lui dit non, dis-lui de retourner chez elle. Et là, son ami lui répond, mais attends, tu nous casses la tête jour et nuit par rapport à Leïla. Et là qu'elle vient, maintenant qu'elle vient, tu veux pas d'elle. Il dit non, j'ai peur que Leïla m'empêche de penser à l'amour que j'ai pour Leïla. Là, maintenant, au niveau poétique,
tu m'as fait revenir cette histoire.
Au niveau poétique, c'est très joli. Ouais, mais si on met de côté,
après tu as un coup.
Mais si on met de côté le côté poétique,
c'est du masochisme.
Non, c'est pas du masochisme. Ah bah, écoute, il est exactement dans ce qu'il souhaite.
Il est amoureux de l'histoire d'amour qu'il a avec elle.
C'est la chanson de Gainsbourg.
Je répète que l'amour donne du pouvoir.
Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.
C'est-à-dire que dans son cas, lui, par exemple, c'est pas être marié avec Leïla qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'aimer.
C'est le fantasme.
Et d'ailleurs, non. Il va saboter, son propre mariage, oui. Indirectement en faisant ce qui ne se faisait pas dans son contexte, pour ne pas se marier avec elle, pour continuer inconsciemment à l'aimer. Exactement.
Alors, Erika.
Voilà. Alors, j'aime bien revenir sur le fait de généraliser, de sortir un peu de la communauté, vu que, voilà. Pour moi, c'est intéressant toujours. J'aime pas nous excentrer comme ça parce qu'on fait partie d'une dynamique sociale, humaine. Voilà. Et donc il y a un livre que je conseille à tous les célibataires et qui s'appelle s'appelle Le mariage d'amour a-t-il échoué de Pascal Bruckner, et il soulève très bien la problématique dont on parle là. Et je vais juste vous donner une citation qui pour moi, enfin deux petites phrases qui résument très très bien ce que disaient Nadia et Ali, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui le mariage c'est un rêve qui est le tout en un ou le tout ou rien. C'est ça. C'est, on veut tout, on veut absolument que ça remplisse toutes les cases qu'on veut. Et il disait, en fait, aujourd'hui, les couples, puisqu'on parlait de divorce, ils ne meurent pas d'égoïsme ou de matérialisme, ils meurent d'un héroïsme fatal, d'une trop vaste idée d'eux-mêmes. On a tellement de d'idéaux, etc., que chacun veut accomplir, veut remplir des cases, et au final, on s'essouffle dans ça, et voilà.
Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est à qui de prendre en charge les célibataires?
Je pense que moi, alors.
Qui doit les aider?
Moi, je pense que le célibataire, il doit se prendre en charge lui-même déjà. Il doit se réformer, il doit se réveiller. Il doit se dire.
C'est un handicap?
Non, c'est pas un handicap. Je parle pas. Écoute, Vanessa, moi, je parle pas.
Non, mais je parle pas de toi, t'arrêtes, je réponds à Philippe.
Non, mais c'est pas ça. On met les gens. Non, on met les. C'est-à-dire, si, il faut les réveiller, Vanessa, regarde. Faut les réveiller. Parce qu'il y a des gens
aujourd'hui qui se mettent le doigt dans
l'œil. Il y a des gens qui se mettent le doigt dans l'œil, comme on dit, parce qu'ils attendent le prince charmant, ils attendent ceci, ils attendent cela. Je pense qu'il faut que les gens se réveillent.
C'est pas parce qu'on est
marié
que forcément.
Choisir le célibat, il faut prendre le taureau par les cornes et puis aller de l'avant, tout simplement. Bah, écoute, alors c'est peut-être simpliste ce que je suis en train de dire, mais...
Je ne prendrai pas cette responsabilité, parce que c'est une lourde responsabilité que de... Je ne sais pas si tu as une personne autour de toi, tu penses qu'elle souffre forcément. C'est pas de la souffrance.
Non, il parle des célibataires forcément. Qui veulent sortir du célibat.
Mais tous, même ceux qui ne le disent pas, c'est des non-dits. Moi, je suis très extrême dans ce que je dis. Non, mais au bout d'un moment, ils veulent. Parce que c'est très difficile, c'est compliqué d'être seul dans une société où, voilà. Et je dis tout et son contraire, parce que d'un autre côté, les pubs, elles nourrissent en tous les cas ce concept de célibat, puisque les pubs, on voit beaucoup aujourd'hui, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, c'était papa, maman, les enfants, les intérieurs, on voyait bien comment que ça se passait. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de célibataires, ça sonne à la porte, on reçoit même des hommes aujourd'hui.
Ça s'adapte à leurs clients.
Les hommes aujourd'hui se sont prêts. Alors, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, tant mieux, c'est très bien, c'est super, c'est génial. Voilà, se sont féminisés. Mais c'est super, les hommes, ils reçoivent, et à la maison, ils concoctent des petits plats, etc. Je trouve ça formidable, alors qu'avant, on avait des super machos, machin, etc.
Maître Serran, vous vous reconnaissez dans ce que dit Vanessa?
J'allais juste te dire que le célibat, c'est bien. Une fois que t'as été marié, parce que t'as bien compris qu'effectivement, quand t'es célibataire, c'est le top. Donc, t'es pas obligé de passer par cette très mauvaise expérience pour certains. Je parle pas pour moi, évidemment, mon épouse. Écoute, tout mais je parle pas pour moi. Mais voilà. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut tester le truc.
Mais Maître Serran, on peut dire aussi que le mariage est bien. Je suis désolée, je fais partie du vieux dinosaure comme vous. Je suis mariée depuis 19 ans.
Vieux, tu le gardes pour toi. Voilà. Moi, ça me concerne pas.
On peut aussi dire aux célibataires que le mariage c'est bien, c'est vrai. Ça finit pas toujours mal.
Bien sûr, c'est vrai.
Merci de nous avoir écoutés. Dans un instant, c'est un autre dinosaure, l'imam Abdelali Mamoun, qui répond à vos questions.
On attend les pas derrière.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 20h sur Beurre FM.